La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous, buongiorno et bienvenue dans Così sul mare come cielo, un petit coin de paradis créé par une tribu belge du bout du monde, la famille Dumont de Chassard, installée en Sardaigne depuis 3 générations. Et ils ne sont pas les seuls, nous allons également rencontrer sur cette île sauvage et indépendante Jacques Piedbeuf, il n'est pas brasseur mais agrumiculteur, et Luis Oliveira, l'ex-diable rouge, devenu là-bas entraîneur à Cagliari. Je sens, bonjour Francine Beretti.
Bonjour à tous.
Que pour votre Saint-Nicolas, vous demanderiez bien votre mutation à Radio Cagliari.
Ah hein, oui, c'est vrai, un peu de soleil, ça ferait du bien.
Ouais, ça va faire du bien, ça va nous réchauffer. Vous avez vu en avant-première l'émission télé qui sera diffusée ce soir sur La Une. C'est vrai que ça fait rêver, hein, ces parcours.
Oui, ça donne envie hein, d'y retourner. Moi, j'ai déjà été en Sardaigne en 2012 et ça fait vraiment envie de retourner à la rencontre de cette île. Et puis, effectivement, on voit les gens exceptionnels qui habitent là-bas.
Hein. Une île qui ressemble un peu à l'île de vos parents. C'est quoi, vous, le nom Beretti
Alors, ça vient de Corse. Donc,
Corse.
C'est italien. c'est anciennement italien. Ça a été français ensuite. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes, hein, bien sûr, entre la culture corse, la culture sarde. On retrouve beaucoup de points communs.
Pour chroniquer cette île fière et insoumise, un petit peu comme la Corse, Maria Mallard, lauréate de la Belle Odyssée. On va parler d'initiative, bonjour Maria, on va parler d'initiative assez intéressante et bien dans l'air du temps avec la COP21.
Oui, donc je vais vous parler d'une bioraffinerie qui fabrique donc des sacs plastiques, du plastique à base de chardon.
D'accord, les Belges du bout du monde sur la première. Restez branchés, nous sommes avec vous pour ce petit déjeuner jusqu'à 10h.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Alors avant de faire plus ample connaissance avec Maïté et Marie-Noël Dumont-Chassard, vous allez nous présenter la Sardaigne, une île magnifique, Franceline, une des plus grandes de la Méditerranée.
Oui, c'est la deuxième, hein, plus exactement, juste après la Sicile. 24 000 km², c'est un tout petit peu plus petit que la Belgique, hein, mais si on regarde sur une carte, on est dans des tailles équivalentes. Sauf qu'il y a beaucoup moins de monde en Sardaigne, un peu plus d'1 700 000 habitants. Ça veut dire que quand on y va, on n'est vraiment pas gêné par les voisins.
Il y a de la place.
Exactement. Alors c'est une région autonome hein, de l'Italie, entre la Corse au nord, la Tunisie au sud. Et on retrouve tout ce qui est caractéristique des paysages méditerranéens. Ce mélange exceptionnel entre la mer et la montagne. Ça monte jusqu'à 1834 mètres en Sardaigne. Et puis il neige hein, dans le centre du pays, de l'île plutôt, l'hiver. Et puis on retrouve l'olivier bien sûr, aussi le châtaignier, le chêne vert, le chêne liège, le pin. Bref, quand on est en Sardaigne, on retrouve cette odeur hein, très méditerranéenne. Plein le nez, on en a. Et puis on entend aussi un peu des sonorités particulières. Le sarde est toujours bien pratiqué. Environ 80% de la population le parle à la maison. Pour les linguistes, le sarde, c'est une langue à part entière. Ça n'est pas un dialecte dérivé de l'italien. C'est vraiment une langue qui est assez proche du latin, paraît-il. Et puis il est divisé lui-même en 3 familles. Ça veut dire qu'en Sardaigne, selon que vous soyez dans le nord-ouest, dans le centre ou dans le sud du pays, eh bien on n'entend pas exactement les mêmes sons. Alors il faut savoir hein, que dans les médias ou pour faire du business, par contre, c'est l'italien qui est utilisé.
Bien sûr, à tout seigneur, tout honneur dans cette émission Les Belges du bout du monde en Sardaigne. Je vais vous présenter le patriarche de la colonie belge de Mouravera. Il s'appelle Jacques Piedbeuf.
Eh bien, vous êtes dans le Sarabous, en Sardaigne bien sûr, et dans le Sarabous, c'est-à-dire une région au sud-est de la Sardaigne.
Alors vous avez commencé votre carrière au Congo, vous étiez agriculteur ?
J'étais agronome pour une société coloniale qui cultivait du café et du thé au Kivu.
Jusqu'au début des années 60 ?
Nous sommes partis en 61, 8 mois ou 10 mois après l'indépendance.
Pour arriver ici en Sardaigne, alors pourquoi la Sardaigne et pas Liège, votre région ? Parce que Piedbeuf, c'est liégeois, ça, non ?
Oui,
c'est une légende, c'est la bière
Ma famille, c'est la bière, oui. C'est-à-dire que le fondateur de la brasserie Piedbeuf, c'était Jean-Théodore Piedbeuf, qui était le frère de mon trisaïeul. C'est bien entendu liégeois, mais moi-même, j'étais né au Congo. Et j'avais vécu la plupart de mes années de jeunesse au Congo. Et je voulais retourner au Congo, ne pouvant plus aller au Congo. J'ai cherché un autre pays de soleil et de liberté comme au Congo.
Et vous êtes arrivé ici au milieu d'autres plantations. On verra ce soir à la télé les images, mais elles sont magnifiques. On est au milieu des orangers, là.
Oui, vous êtes au milieu des orangers. Ils ont été plantés il y a 50 ans, mais ils produisent toujours.
On entend, c'est la période de récolte, il y a les tracteurs autour de nous. C'est ici, au cœur de l'hiver, que la saison bat son plein.
Oui, pour la récolte. En été, on fait de l'irrigation surtout. Et au printemps, il y a la taille, il y a d'autres travaux agricoles.
Est-ce indiscret de vous demander votre âge, M. Piedebœuf ?
81 ans dans 3 jours.
Écoutez, magnifique. Et vous êtes toujours au travail, au champ ?
Je suis toujours au travail, oui.
Combien d'hectares de plantation ?
24 hectares sont plantés en agrumes. Il y a des oranges, il y a des clémentines et un peu de citron.
Combien de tonnes d'agrumes produisez-vous chaque année ?
Maintenant, je suis environ dans les 500 tonnes par an.
Mais vous luttez pour maintenir la plantation, maintenir ce travail, cette activité.
Je lutte. Si j'abandonnais et je laissais tomber tout, la main d'œuvre que j'ai n'aurait plus de travail. Comme on s'aime bien, c'est aussi un motif pour lequel je reste.
Vous avez trouvé justement ici, en Sardaigne, un accueil.
Très chaleureux, très 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 chaleureux, déjà charmant.
Confirmation avec Maria Mallard et Francine Beretti, vous êtes allées toutes les deux en Sardaigne. L'accueil légendaire est très chaleureux.
Oui, effectivement, c'est très facile de parler avec les gens. Enfin, dès qu'on parle un petit peu d'italien, les gens sont curieux, ils demandent d'où on vient, etc. Ça se fait très facilement le contact.
Dans quelle région êtes-vous allée, Mariam ?
Moi, dans le sud, j'étais dans un petit village qui s'appelle Villa Simius, à 50 km de Cagliari.
Ouais. Et vous, Francine ?
Moi, j'avais fait pas mal de randonnées dans le centre de l'île, donc en bougeant beaucoup dans les montagnes.
Oui, parce que c'est ça aussi, hein, la Sardaigne, ce sont les plages, mais surtout le cœur du pays, où nous rencontrerons dans quelques instants des bergers avec des instruments très particuliers. Mais tout d'abord, un petit clin d'œil à cette émigration un peu surprenante. Beaucoup d'Italiens sont arrivés dans la Belgique d'après-guerre, souvent échangés contre un sac de charbon. Et situation économique oblige, plus rares évidemment sont les Belges à avoir fait le chemin inverse. Comme les Piedebœuf, après, il est vrai, un long crochet par le Congo.
Oui, à l'époque, on a fait le chemin inverse. Et d'ailleurs, on a parlé de nous dans les journaux locaux. Comme une chose extraordinaire de Belges qui viennent en Sardaigne, au lieu que ce soit les Sardes qui doivent émigrer. Mais on s'en est toujours trouvé très bien.
Vous avez raconté votre histoire, c'est votre épouse d'ailleurs qui l'a écrit dans un livre.
Oui, il y a un livre qu'elle a écrit sur la fondation de notre colonie, où au début, on était quasiment 50-60 résidents sur place, avec enfants et famille donc.
Un peu comme Gabriel de Halleux en Patagonie.
Un peu comme eux. Sauf que le climat était bien plus favorable ici qu'en Patagonie et qu'on n'était quand même pas tellement loin de Bruxelles. Il y a des amis qui arrivent ici, m'apportent la Libre Belgique ou le soir en me disant « Voilà, tu pourras lire le soir, tu pourras lire la Libre Belgique ». Nous sommes tellement intégrés dans la population que je préfère lire des journaux en italien.
Vous parlez italien ?
Buona domenica a tutti.
Buona domenica, pas besoin de traduire. Bon dimanche sur la première. Je vous emmène de l'autre côté de la mer tyrrhénienne, en Toscane, à Pise précisément. C'est le titre de la nouvelle chanson de Zazie sur la première.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde ? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
C'était Zazie sur la première. Elle sera la marraine de la prochaine édition de Viva for Life. Et en ce jour de la Saint-Nicolas, nous avons évidemment une pensée pour les enfants vivant chez nous aussi, ça existe, sous le seuil de pauvreté. Et les Belges du bout du monde apporteront leur petite pierre à l'édifice de cette opération de solidarité en organisant le 20 décembre, dans 15 jours, notre traditionnel brunch de fin d'année qui aura lieu dans la salle des milices de l'Hôtel de Ville sur la Grand Place de Bruxelles au profit de Viva for Life. En attendant, les Belges du bout du monde sont en Sardaigne ce matin avec, dans un instant, la tribu du monde chassard installée dans la région de Mouravera.
Tweetez avec les Belges du bout du monde, via le hashtag BBDMRTBF.
Alors avant de continuer à arpenter la Sardaigne sur les traces de nos Belges du bout du monde, penchons-nous avec vous, Franceline, sur la situation économique et politique de la Sardaigne. Économique, j'imagine, c'est un peu comme les Dumont-Chassard, on vit surtout de l'agritourisme.
Oui, l'agritourisme qui est très présent. Enfin, c'est effectivement la combinaison du tourisme d'un côté et de l'agriculture de l'autre. Le tourisme, forcément, tous ceux qui ont été en Sardaigne le savent, c'est des paysages absolument magnifiques, des plages paradisiaques, sans parler de la cuisine. Vous vous en souvenez probablement,
Adrien. J'ai pris quelques kilos en une semaine.
Ouais. Ça ne m'étonne pas, moi aussi, ça m'était difficile. L'île accueille environ 2 millions de touristes chaque année. Et une amie italienne m'avait même raconté que l'été, au mois d'août, pour trouver une place sur une plage sarde, il faut y aller avant 9h30 le matin, sinon c'est impossible. Bon alors, en tout cas, voilà, il y a eu quelques grands complexes hôteliers qui ont fleuri à certains endroits du littoral, surtout dans la Galoura et puis sur la Costa Smeralda, à l'est de l'île. Mais finalement, ça s'est fait plutôt de façon harmonieuse. Ça n'a pas gâché le paysage. Pour le reste, donc, vous l'avez dit, agritourisme, il y a agri, la Sardaigne reste très traditionnelle. Peu d'industrie, il y a un tout petit peu de production minière. Et puis l'élevage, encore très bien ancré. Quand on se promène dans les montagnes, on voit beaucoup de chèvres perchées sur les falaises. Dans certaines régions, on produit des céréales, du vin évidemment, puis des agrumes comme Maïté, on va l'entendre, et sa famille. Et puis aussi des olives. La pêche s'est un petit peu développée aussi depuis 20 ans, mais ça reste très limité. Et c'est là qu'on reconnaît que le Sard est vraiment très méditerranéen. Il est vraiment plus tourné vers la montagne que vers la mer.
La mer, allons-y. Così sul mare come cielo. Je vous invite sur la Spiaggia, la plage de Torre Salinas. C'est à 80 km au nord de Cagliari, où nous sommes accueillis justement par Maïté Dumont-Chassard.
Oui, je suis née ici en Sardaigne et j'habite Torre Salinas depuis ma naissance.
Nous sommes sur une plage qui fait plusieurs kilomètres de long et nous sommes les seuls. C'est un paysage sauvage avec les dunes derrière et caché dans les dunes, votre maison.
C'est ça exactement, où on fait une maison d'hôte pour quelques clients qui aiment de venir ici en vacances et se retrouver seuls sur une plage tranquille, encore sans contamination, sans problème. C'est encore tout à fait à l'état sauvage et c'est fort préservé. On aime tous de penser que cet endroit doit rester encore comme ça, tel qu'il est.
À la mer comme au ciel ?
À la mer comme au ciel, c'est le nom de notre bed and breakfast.
Si je suis un peu patient, si je reste avec vous, et si je suis attentif, je risque ici de voir des dauphins.
Les dauphins, au printemps, quand la mer commence à chauffer, passent ici devant, font des jeux d'eau. C'est très, très gai à voir.
Alors, vous êtes né ici il y a 40 ans, vous n'avez jamais vraiment quitté la Sardaigne.
Quand j'ai essayé, c'était jamais réussi. J'ai toujours voulu revenir.
Vous vivez ici de la terre.
Mon père est agrumiculteur depuis qu'il est arrivé en Sardaigne. Je continue maintenant avec un autre projet que je fais encore avec d'autres Belges qui viennent s'installer. Et nous essayons de faire des huiles essentielles. Des huiles essentielles pas très difficiles ici en Sardaigne parce que nous avons beaucoup de produits naturels, duquel extraire des huiles impeccables pour la cosmétique. Mais nous avons planté sur 8 hectares des oliviers, des amandiers et sur la base des huiles d'olive et des huiles d'amande, nous allons essayer de faire des produits exceptionnels.
Et il ne faut pas aller très loin pour trouver ces plantes. Déjà ici dans les dunes, derrière votre maison, vous m'avez montré une dizaine de variétés différentes.
Oui, la première, Helichrysa. L'Helichrysa, c'est une plante qui est désinfectante par sa nature. Donc, il est même suffisant d'en cueillir quelques feuilles pour une blessure et les mettre comme une camomille sur un œil rouge. C'est la même chose.
Et c'est beaucoup moins cher.
Nettement moins cher, c'est gratuit.
C'est la nature, c'est cadeau.
C'est naturel.
Devant nous, si on pivote un tout petit peu là, des montagnes.
Ça s'appelle la Catena dei Sette Fratelli et c'est ce qu'il y a de plus haut ici dans les 60 km qu'on a autour. Si on a de la neige une fois par an, c'est très rare.
Vous avez élevé aussi, vous êtes toujours en train de les élever. 3 enfants et ici, quand je les vois courir autour de vous et gambader en pleine nature du matin au soir, vous leur offrez une enfance, on va dire, un petit peu comme dans le reste de l'Europe il y a 50 ou 60 ans, très nature, très proche d'autres valeurs.
ils sont à l'état, je ne dis pas sauvage, mais ils sont à l'état naturel. C'est très rare qu'ils prennent des médicaments. Souvent, il suffit un bon bain de mer, même hors saison, quand ils ont un rhume. C'est curieux à dire, mais c'est un remède naturel. Et la Sardaigne est un pays formidable pour vivre. On y vit tranquillement. La vie est beaucoup plus simple ici. Venite in Sardegna, venite, si sta bene qui.
Elle donne envie d'y aller en tout cas. Je sais pas, vous avez des enfants, Franceline ?
Non.
Bah, non. Non, d'accord, parce qu'elle est trempée carrément dans la mer en plein hiver.
Oui, c'est radical.
Oui, c'est quand même un traitement de choc. Hein. Alors, nous allons vous emmener maintenant dans le village voisin de San Vito. C'est le long du fleuve Mendoza, c'est à 3 km de Muravera. Alors, San Vito doit sa réputation aux Lonedas. Savez-vous, Franceline et Mariam, ce que sont les Lonedas ?
Non.
Un instrument ?
Bravo, bravo. Une espèce de cornemuse à trois flûtes, un instrument cher aux bergers sardes, des gars qui ne manquent pas d'air. Écoutez plutôt. Marie-Noël, on peut expliquer un tout petit peu ce que c'est cet instrument ?
Alors c'est un instrument qui est fait avec des cannes, les cannes qu'on ramasse le long des fleuves. Et notamment chaque artiste va ramasser ses cannes le long du fleuve et les travaille lui-même. Donc chaque artiste prépare ses cannes qui ne sont faites justement qu'avec des cannes, un peu de ficelle et de la cire d'abeille pour les accorder. Tout est là et des années d'études.
Et ça s'appelle de la ?
Launeddas.
Launeddas.
Launeddas, oui.
Et c'est vraiment la musique de Sardaigne.
C'est la musique de Sardaigne.
On a l'impression qu'ils étaient plusieurs à jouer, mais en fait, il est tout seul. Il a trois flûtes dans la bouche en même temps.
C'est ça, oui. Et c'est très difficile parce que c'est. En fait, il ne prend pas son souffle. Hein. C'est tout le temps. Il respire et il souffle et sans arrêt.
Alors, Franceline Beretti, vous les avez vus, ils sont très impressionnants. Hein ?
Oui, effectivement, on sent que la technique n'est pas facile à acquérir.
Hein. Ah, il faut du souffle. Hein. Ces bergers sardes, dans la Corse de vos parents, sont plutôt les polyphonies, mais c'est le même genre de communication, un peu spéciale, très authentique aussi.
Oui, puis on les retrouve, ces polyphonies aussi en Sardaigne, un petit peu. Hein. Enfin, des chants d'hommes qui chantent en groupe, je crois que c'est de 3 à 5 en Sardaigne. Enfin, il y a clairement une culture musicale qui est similaire entre les deux îles.
Et dans quelques instants, j'aurai un scoop pour vous. C'est un ex-diable rouge qui chante avec les Launeddas. C'est pas mal, ce sera votre cadeau de Saint-Nicolas. Ce sera après la pub sur la première. À tout de suite.
9h-10h,
les Belges du bout du monde sur la première.
Avec Adrien Jouvenot.
Excellent dimanche sur la première. Vous êtes nombreux à nous demander comment participer au petit déjeuner des Belges du bout du monde qui aura lieu le 20 décembre sur la Grand Place de Bruxelles. Rien de plus simple, vous allez sur lapremière.be et vous cliquez sur le formulaire en ligne. L'inscription est libre et gratuite et nous aurons le plaisir de vous offrir le café, les croissants et la visite guidée du musée du chocolat qui est juste à côté de la Grand Place rue de la Tête d'Or. En attendant, ce matin, les Belges du bout du monde sont en Sardaigne avec entre autres Luis Oliveira, ex-Diable Rouge, devenu entraîneur de foot à Cagliari. Vous le verrez à 18h sur la Une Télé. Vous l'entendrez aussi sur la première dans une poignée de minutes.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Avant de parler avec Il Falcone, la Sardaigne autrement avec vous, Mariam Allard, vous nous faites découvrir une initiative positive, hein, comme chaque semaine, c'est votre spécialité. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans une raffinerie pas comme les autres, c'est une bioraffinerie.
Oui, nous sommes dans le nord de la Sardaigne, à Porto Torres, une bioraffinerie qui fabrique du plastique. Au premier abord, de près comme de loin, on pourrait croire que l'on se trouve face à une raffinerie de pétrole. Mais ici, le pétrole est remplacé par du chardon. Les fleurs violettes du chardon ne servent donc pas seulement à décorer, mais on en fait du plastique. C'est la société Novamont qui fabrique ce plastique. Elle fabrique des composés chimiques que l'on utilise pour du plastique, des lubrifiants, du caoutchouc ou encore des cosmétiques.
Du plastique bio, c'est sympa ça. Comment est venue l'idée d'utiliser du chardon pour fabriquer ce bioplastique ?
Eh bien, le chardon est une plante plutôt facile à cultiver. Elle n'a pas besoin d'eau, elle s'adapte très facilement au climat de la Sardaigne. Aujourd'hui, près de 500 hectares sont cultivés à Porto Torres et dans plusieurs fermes. En 2011, on n'en comptait que 5. En plus, c'est une des rares plantes qui permet de fabriquer du plastique et qui ne se mange pas. Autre raison en faveur du chardon, c'est que rien ne se perd. Les graines de chardon sont pressées. Elles permettent d'obtenir de l'huile et utilisée pour fabriquer ensuite du plastique. Mais le reste n'est pas jeté à la poubelle. Les tiges et les feuilles de chardon, par exemple, sont utilisées pour alimenter la chaufferie de la raffinerie.
Alors j'imagine que le plastique à base de chardon, c'est nouveau, mais ça a déjà son succès.
Oui, énormément. Il faut dire que la loi est particulièrement en faveur de ce genre de plastique. Depuis 2010, l'Italie a interdit les sacs plastiques non biodégradables. C'est pour cette raison que les plastiques en chardon séduisent. Une fois utilisés et jetés, il ne faut que 80 jours pour les transformer en compost. Pour que du plastique pétrolier disparaisse, il faut attendre 400 ans.
Oui, très bien. On rappelle la grande journée COP21 sur les radios de RTBF. Ce sera le 7 décembre. C'est demain d'ailleurs. Alors, Francine Beretti, vous êtes franco-belge. Est-ce que vous avez ressenti en vous baladant là-bas, en Sardaigne, que les Belges sont bien vus, qu'il y a une cote de popularité, de sympathie en tout cas ?
Je crois que ça c'est assez général en Sardaigne, mais aussi quand on se balade en Europe, on sent que les Belges sont bien reçus effectivement.
C'est vrai, c'est vrai. Même si l'actualité ces temps-ci nous a donné un petit Belgium bashing, on remonte, hein, on va redorer notre blason.
Tout doucement.
Tout doucement, tout doucement. Écoutez, Marie-Noëlle nous racontait, Marie-Noëlle Dumont-Chassard, hein, c'est notre Belge du bout du monde, nous racontait comment elle a été secourue lors des fameuses inondations en Sardaigne. Elle était toute petite, c'était en 1972.
La maison où nous habitions à l'époque a été prise entre les eaux qui débordaient des deux fleuves là tout près. Et nous avons passé donc la nuit sur le toit. Et aux petites heures du matin, un hélicoptère de l'armée est venu nous récupérer. Et ça, au fait, c'était grâce au fait qu'on était belges. Parce que c'était pas facile à l'époque de faire bouger un hélicoptère. Donc voilà, c'était un des petits avantages qu'on a étant belge dans une terre étrangère, mais qui est très accueillante. Quand on parle avec eux, on est les Sardes aussi parce qu'ils nous ont adoptés, vraiment.
C'est une terre très rustique, la Sardaigne. Est-ce que c'est facile de vivre ici ?
On travaille avec les saisons et pendant l'hiver, c'est vrai qu'il faut s'arranger pour faire toutes sortes de trucs. Donc, à côté de mon travail en été, qui est celui d'amener les gens en bateau faire des excursions, en hiver, eh bien, voilà, je profite du fait que j'ai appris l'anglais quand j'étais plus jeune. Donc, je donne des cours d'anglais. Dans des écoles et puis là j'ai suivi mes études de naturopathie donc je commence avec la naturopathie aussi, on fait un peu toutes sortes de choses.
Donc ça c'est bien, c'est plusieurs vies dans la même.
Oui, c'est ça.
On est à Cagliari, la capitale, très belle ville en hauteur avec des collines, avec des petites venelles, avec un château.
Oui, c'est une très jolie ville, c'est très sympa de se balader, il y a beaucoup de movida le soir aussi pour ceux qui ont envie de sortir. Nous avons le port, nous avons la partie ancienne de la ville, donc le castello.
Alors c'est une ville aussi avec un club de foot important. Où a joué un Belge d'origine brésilienne?
Ah oui, mais écoutez, le foot, on est en Italie, hein, donc là, à ce point de vue-là, la Sardaigne fait tout à fait partie d'Italie. Et donc on a eu effectivement Luis Oliveira qui est venu jouer dans le Cagliari et qui habite maintenant à Muravera. Il est devenu citoyen honoraire de Muravera. Il a été accueilli par la population. Il a reçu donc les clés de Muravera. Lui aussi s'est établi ici. Il s'est trouvé à son aise.
D'ailleurs, on va bientôt partir à sa rencontre dans les Belges du bout du monde. Après vous avoir remercié pour votre accueil et vous souhaiter une bonne continuation. Buona fortuna.
Grazie, altrettanto. Voilà, mais merci d'être venu, c'était très sympa de papoter un petit peu avec vous et d'amener notre témoignage pour les Belges qui nous suivent de la Belgique.
Les Belges qui seront contents aussi d'avoir des nouvelles ce matin de Luis Oliveira, ex-Diable Rouge. Il a joué dans les années 90 à Cagliari, la capitale sarde, avant d'en devenir l'entraîneur. Écoutez-le, il tient toujours la forme Lolo Oliveira.
Bonjour à vous, bonjour à toute la Belgique.
On est dans un beau studio ici. Vous pouvez décrire ce qu'on voit et où on est, Luis?
On est à bord de la mer, il y a un peu du vent. On voit le spectacle de la mer avec les montagnes autour.
C'est le spectacle que vous voyez tous les matins en vous réveillant depuis 1992, depuis que vous avez trouvé votre port d'attache ici, Luis, à Muravera.
Muravera, si, bien sûr, tous les matins, je viens ici sur cette mer pour prendre un peu de l'air, pour voir la nature comme elle est faite, est très très chouette, très beau, et je suis très content d'être ici.
Et vous courez le long de la plage? Je viens de vous surprendre en plein jogging.
Bien sûr, quoi, parce que moi je cours presque tous les jours. Hein. Un jour sur, un jour non, je cours parce que je veux tenir la forme. Parce que c'est très important pour moi.
Vous êtes né au printemps 1969.
Oui, 24 mars 1969, oui. Et j'ai encore faim. La faim pour travailler, pour courir encore. Encore pour jouer au foot.
Oui, voilà, le fauve n'est pas rassasié. Vous avez toujours envie.
Bien sûr, hein. Ça c'est la... C'était pour moi la chose la plus importante. Parce que quand je suis parti du Brésil à 15 ans et demi pour arriver à une Belgique, surtout à l'Anderlecht, j'ai laissé surtout mes mamans, mon papa et toutes mes frères et sœurs pour venir pour jouer le foot. Et la chose plus importante que j'ai mis dans ma tête est d'aider ma famille.
Il faut dire que votre famille vient d'un milieu très pauvre. Vous êtes né dans une favela, au milieu des animaux, dans le nord-est du Brésil, pas loin de Recife. Vous étiez très pauvre, vous êtes devenu très riche. Et vous avez pu aider votre famille à construire une maison?
Mais bien sûr, quoi. Ça, c'était la chose la plus importante pour moi. Le foot m'a donné beaucoup. Et ça, je suis très, très content. Et la Belgique m'a donné beaucoup aussi. Hein.
C'est vrai que vous avez fait beaucoup de matchs en Belgique. Cette saison à Anderlecht, un titre de champion de Belgique, une finale européenne.
Je me rappelle encore parce que j'étais encore très jeune. C'était Ademar, c'était l'entraîneur. Et son deuxième, c'était Jean Doc. Pour moi, c'était une personne formidable. Quoi. Sans oublier... Et chef de l'Anderlecht, Michel Vescu, c'était une grande personne pour moi, il m'a aidé beaucoup. Et toujours, sans oublier, les personnes Michou, des Cafés de la Coupe et tous les supporters d'Anderlecht.
Et puis les Diables Rouges, il y a eu ces fameux 3 buts marqués, je crois que c'était le 30 avril 1997, dans un match historique.
C'était incroyable, parce que je n'ai jamais pensé que la Belgique pouvait aller en Turquie, gagner ses matchs et surtout être but de Lulu Oliveira.
C'est sûr.
C'est super ça. Pour moi, c'était magnifique.
Vous avez traversé la moitié du terrain, balle au pied.
Bien sûr, c'était chouette. Avec Chiffo qui met les ballons sur ma tête. Et la deuxième fois, c'était Impens qui m'a passé les ballons, j'ai mis dedans.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Sardaigne et pas un autre endroit pour vivre votre retraite là maintenant tranquillement?
J'habite quoi? Dans un pays merveilleux, comme se dit en italien, merveilleux. Et pour moi, c'est très important, ça, avec la famille à côté.
La vita est belle?
La vita est belle et la vita est bellissima.
Allez, encore un petit bout de Lone Edas et la preuve que Luis Oliveira est meilleur footballeur que chanteur. Écoutez-le ici, après une petite soirée, je vous l'avoue, légèrement arrosée.
J'ai pas
avec
la voix.
Luis,
hein. C'est pas un chanteur. Hein.
Avec Luis Oliveira, on a essayé.
C'est super, c'était chouette.
Hein.
Oui, c'est un beau moment d'émotion.
Ça fait plaisir, bien sûr. Hein. Ça, c'est
ouais. Toujours, je pense, une très grande émotion de chanter sur des pièces qui sont, en tous les cas, on les sent tous dans le cœur. Hein. Toi, tu les sens aussi.
La musique plus belle. Hein. Très, très beau, ces chansons.
À chacun son métier. Hein. Marie et Francine, on ne se moque pas. Hein.
Non, non, on ne se moque pas. On respecte le grand footballeur qu'il est, mais pas le grand chanteur, non. Visiblement.
Il Falcone, et c'était Luis Oliveira, que vous verrez en jogging sur les plages de Sardaigne ce soir, 17h50 sur la Une. En attendant, voici un vrai chanteur italien, Raphaël Gualazzi, sur la première.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jouvenot.
Il marre et c'était Raphaël Gualazzi sur la première dans ces Belges du bout du monde en Sardaigne.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Alors le mot de la fin, ou presque, revient au père de la famille du monde chassard, arrivé en Sardaigne il y a près d'un demi-siècle.
On est au milieu de la Méditerranée, c'est pas vraiment le bout du monde. Il y a des bouts du monde beaucoup, beaucoup plus lointains. Et j'ai vécu en Afrique de nombreuses années jusqu'à la Sardaigne. J'ai abandonné l'Afrique en fin 67. Et je me suis installé ici, c'était le coup de foudre. J'ai vu, je suis resté.
Il faut décrire, on est ici, così sul mare, come in cielo, sur la mer comme au ciel.
La mer comme au ciel, oui.
Alors c'est un endroit de rêve, on est sur une dune qui donne directement sur la plage. La mer est à 200 mètres. Ça fait longtemps que vous vivez ici, Noël.
Ah, ça fait 47 ans maintenant. Ouais. 47 ans, le temps de faire 6 enfants. Ce qui m'a énormément plu en arrivant ici, c'est la similitude de quantité de paysages avec des paysages d'Afrique que j'ai connus au Rwanda, au Katanga. Et encore aujourd'hui, roulant en voiture, je me dis « Ah, on est au Katanga, on est au Rwanda, on est à Kinshasa
». Alors ici, on est au milieu des plantations, des citronniers, des orangers. C'était tout un pan de votre vie ?
Ah oui, ça, j'ai fait ça très longtemps. Certains de mes amis continuent, envers et contre tout. J'ai abandonné parce que ce n'était plus rentable déjà depuis 4 ou 5 ans. Parce que nous ne sommes pas en mesure de concurrencer les productions du Maroc, de Tunisie.
Alors on est au cœur de l'hiver et pourtant ça pousse. C'est vraiment la période.
Ah oui, les oranges, ça commence fin septembre et ça se termine fin avril. Puis on a différentes variétés d'oranges. Je crois que c'est à Binche qu'on se lance des oranges à la tête. Il y a ça ici aussi. Ça coûte moins cher.
En attendant le carnaval de Binche, c'est la Saint-Nicolas avec beaucoup de mandarines dans nos petits souliers en Belgique. En Sardaigne, ben on a avec la famille du Montchasseur des belles images aussi d'une Sardaigne facile à vivre, généreuse. Pourtant, ben Noël le laissait entendre, c'est la crise. Là aussi, Francine, il y a des défis à relever sur cette île italienne.
Oui, la crise, donc ça c'est conjoncturel effectivement, mais en général, la Sardaigne c'est une région pauvre, hein, même si elle s'en sort un petit peu mieux que le reste de l'Italie du Sud. Il faut se souvenir que dans les années 2000, eh bien, la région faisait partie des régions éligibles au fonds structurel européen, ces régions qui recevaient de l'argent de l'Union européenne pour se développer, pour construire des infrastructures, pour sortir de cette pauvreté. Alors le taux de chômage aujourd'hui tourne autour de 13%, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis surtout, chez les jeunes, il explose. Près d'un jeune sur deux est sans emploi. La société tient grâce à la solidité de la cellule familiale. Encore une fois, on est en Méditerranée, les générations cèdent les unes les autres, mais les perspectives sont maigres. Du coup, eh bien, la Sardaigne est une terre d'émigration. Les jeunes partent encore aujourd'hui pour le continent, voire plus loin. Et puis comme le taux de natalité est faible, eh bien, la population diminue tout doucement. Alors le défi pour les Sardes, ça va être de trouver des activités pour permettre à ces jeunes de rester au pays, comme on dit. Mais vu que l'ensemble de l'Italie est frappé par la crise, comme vous l'avez dit Adrien, effectivement, les années qui viennent ne vont pas être simples.
Et on est obligé, comme les sœurs hein, Maïté, Marie-Noël, de faire appel au système D, d'enchaîner plusieurs emplois, des petits jobs l'hiver, des jobs de prof ou bien de guide touristique l'été, puis un petit agritourisme par-ci, par-là. Bref, c'est en cumulant les petits emplois qu'on finit par avoir assez de revenus pour vivre, mais c'est pas évident. Allez, on va terminer sur une note positive. La Sardaigne, c'est aussi un pays de vacances. Il y a des moyens d'y aller pour pas très cher, en partant de Charleroi ou de Bruxelles pour une poignée d'euros. Vous pouvez y aller et on peut, entre autres, goûter la cuisine sarde qui vaut vraiment le détour, Francine.
Oui, moi, j'ai un très bon souvenir effectivement de ces vacances, notamment pour la cuisine. Je me souviens en particulier du pain sarde qui est c'est une galette très très fine. On la trouve pas à ma connaissance dans d'autres parties d'Italie. Ça s'appelle le pane carazo, donc une feuille toute croquante avec de l'huile d'olive, des herbes par-dessus. C'est très bon.
Ouais, c'est très bien.
On la mange évidemment avec le pecorino, le fromage de brebis qui est rien à voir quand on le mange en Sardaigne et ailleurs. Et j'ai le souvenir aussi de pas mal de gibier, des raviolis au sanglier, des choses comme
avec
ça.
Des châtaignes. Oui,
exactement.
Ouais.
Vraiment une cuisine excellente.
Oui, et un bon petit vin sarde aussi,
évidemment,
qui vaut le détour. Attention, après, quand on reprend la route, ça tourne, hein, Mariam.
Oui, c'est très haut et vaut mieux pas avoir le vertige si on prend la route.
Si vous souhaitez mettre des images sur ces belles histoires, rendez-vous à 17h50 sur la Une ou 24h sur 24 sur la page Facebook des Belges du bout du monde. On vous a mis des petits teasers, des petits making-of sympas de cette émission. Dimanche prochain, nous serons à Pondichéry en Inde, chez Madeleine de Blic, cette mère courage, sœur de combat de mère mère Teresa a fondé là-bas une ferme, des ateliers de tissage et de menuiserie pour donner du travail aux plus démunis. Je peux vous dire que ça va dépoter. Cette dame, elle est incroyable. Elle a 4 fois 20 ans et elle a un dynamisme incroyable. Madeleine Deblic. En attendant, je vous remercie, Francine Beretti, d'avoir quitté les studios de l'Info, parfois un petit peu anxiogène, pour venir vous aérer chez nous.
Oui, ça fait du bien. C'est un bon bol d'air.
Oui, dans les belles jumeaux du monde en Sardaigne. Merci Maria Mallard.
Merci Adrien.
Lauréate de la Belle Odyssée, je rappelle, jeudi 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, c'est aussi la finale de la Belle Odyssée. Vous serez au palais ?
Oui, j'y serai.
Dans votre plus belle robe ?
Ben, j'essaierai. Hein. Oui.
Et sur scène, face au roi Philippe, il y aura Lost Frequencies. Révélation belge, ça va être super sympa. Merci à vous deux. L'émission mise en onde par Paul Michel, hein, comme chaque semaine. Dans un instant, sur la première, Alain Gerlache et ses décodeurs RTBF. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Alain ?
Eh bien, on va revenir sur la polémique de la semaine à propos de la présence du roi en thalasso. Vous savez que ça a agité pas mal à la fois la presse française et belge aussi.
C'était un belge du bout du monde en Bretagne,
exactement,
si on veut.
Voilà. On va essayer de comprendre comment fonctionne la communication du palais et aussi les rapports parfois compliqués entre le palais et la presse.
Nous allons vous suivre, ce sera après le journal. Merci beaucoup Alain, bonne émission radio et en télé après à 11h15 sur La Une.
La première, podcast.